France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Philippe Forest. J'ai été particulièrement emporté par votre conte pour adultes. J'ai perdu toute notion du temps en vous lisant, ce qui est pour moi la preuve d'un grand roman.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un roman adapté en film, raconté dans un roman, aujourd'hui dans votre book club, et ce ne seront pas les seules poupées de gigogne que l'on emboîtera. Le nouveau livre de Philippe Forest suit la voix d'une petite fille, et cette voix chante une comptine. La comptine se termine sur un mystère, et personne ne sait. De fait, personne ne sait le statut exact de cette figure d'enfant qui inspire au peintre et à celui qui raconte des portraits toujours plus beaux, mais aussi toujours plus incertains. Philippe Forest est notre invité pour son drôle de conte d'hiver. Vers 15h50. Comme chaque lundi, ce mois-ci, nous retrouvons l'autrice et performeuse Diaty Diallo. En résidence dans le Book Club, elle lit et relit pour nous des textes en écho avec un ou plusieurs faits d'actualité. Aujourd'hui, elle partage avec nous un texte de Yuna Vizentin et propose de remettre au centre les morts de la marge. Et enfin, comme chaque jour, on se quittera en musique avec le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Votre nouveau roman s'appelle « Et personne ne sait ». Il a paru aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire de janvier 2025. Il sera au cœur de notre conversation tout à l'heure, mais on commence toutes ces émissions du Book Club par un portrait de nos invités en tant que lecteurs. La littérature, c'est à la fois pour vous une pratique du côté de l'écriture, du côté de la lecture, mais aussi du côté de l'enseignement, parce que vous enseignez la littérature à l'Université de Nantes. Vous dites souvent que vous êtes resté fidèle à un rapport que vous aviez à la littérature enfant. Ce à quoi vous rajoutez que vous êtes de votre enfance comme on serait d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Forest ?
Je crois que le goût de la lecture, comme tout le monde, je l'ai eu de l'enfance et des histoires qu'on me lisait lorsque j'étais enfant et des histoires qu'à mon tour j'ai lues à mon enfant. Je crois qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel dans ce rapport primitif, archaïque qu'on a au livre. Et c'est quelque chose que j'essaye de conserver dans les livres que j'écris aujourd'hui. C'est-à-dire d'essayer de retrouver cette parole première à travers les textes qu'à mon tour j'écris.
Et alors si on essaye de la décrire, cette parole première ou cette relation première, si vous y êtes resté fidèle, elle serait faite de quoi ?
Les premiers livres que l'on lit ou que l'on vous lit, ce sont des paroles qui vous accompagnent dans la nuit, au moment où vous allez vous endormir. Je crois qu'essentiellement, c'est cela qu'on demande à un livre. Quelques mots pour nous accompagner dans le noir de la nuit, en quelque sorte.
Comme des mots de transition, des mots pour la peur, des mots contre le noir.
Mais des mots de tendresse aussi, des mots pour nous protéger du noir qui vient et puis pour nous accompagner amoureusement, on peut dire, dans la nuit.
Vous leur demandez ça encore au livre que vous lisez ?
Oui, absolument. Oui.
C'est vrai ?
Même si ça peut prendre des formulations plus compliquées.
Oui, j'imagine.
Mais je crois qu'essentiellement, la littérature, c'est cela, oui. Pour moi, en tout cas.
Une sorte d'accompagnement amoureux ?
Oui.
Ou tendre ?
Oui. Oui.
Et vous trouvez ça souvent sur votre chemin de lecteur ?
Assez souvent, parce que d'abord il y a les grands livres du passé, on n'a jamais fini de les lire, et puis finalement il y a quand même pas mal de très bons livres qui paraissent encore aujourd'hui. Il y en a, je vous l'accorde, beaucoup de très mauvais, mais je pense que la littérature d'aujourd'hui, que ce soit la littérature française ou d'autres littératures auxquelles je m'intéresse, elle continue à nous procurer les mêmes émotions que celles que nous avons trouvées dans les grands livres que nous avons lus lorsque nous étions tout petits. Ouais.
Sur quel livre du passé vous revenez de temps en temps ou régulièrement ? Si vous avez cette pratique de relecture.
Oui, oui, parce que elle s'accompagne pour moi d'une pratique d'écriture, c'est-à-dire il y a les romans, et même dans les romans, parfois il m'arrive de parler d'écrivains ou d'artistes, mais il y a aussi les essais que j'écris. Là, je sors d'un assez long travail de lecture et d'écriture consacré à Shakespeare. Shakespeare qui m'avait déjà inspiré dans l'un de mes romans précédents, qui empruntait son titre précisément à Richard II, « Je reste roi de mes chagrins ». Et donc là, on m'a demandé pour les éditions Flammarion, une collection que dirige Colin Lemoine, on m'a demandé de choisir un grand artiste ou un grand écrivain du passé sur lequel écrire librement, comme je l'avais fait il y a quelques années pour un livre chez Cécile Defoe sur Joyce. Et donc là, je me suis dit, allons-y. Et j'ai choisi Shakespeare. Donc j'ai relu toute l'œuvre de Shakespeare et pas mal de livres consacrés à Shakespeare et pas mal de livres autour de Shakespeare. Et je ne le regrette pas.
Si vous deviez en peu de mots décrire l'expérience que c'est de relire toute l'œuvre de Shakespeare, Philippe Forest, ce serait quoi ? Deux mots, c'est trop vache, mais en tout cas de nous donner comme ça un aperçu de ce qui s'est passé pour vous pendant cette traversée.
Bah, ce qui m'intéressait dans l'œuvre de Shakespeare, en fait, c'est ce que Borges en a écrit d'abord. Il a cette formule qui, moi, m'a toujours frappé et dont j'ai voulu essayer de comprendre un peu mieux ce qu'elle signifiait, parce que c'est un paradoxe. Borges dit « Shakespeare était comme tous les hommes, sauf en ceci qu'il était comme tous les hommes ». Voilà, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Qu'être quelqu'un qui est semblable à tous les autres et qui, du coup, n'est identique à personne. Et je pense que ça résonne avec quelque chose dont on va trouver l'écho dans mon dernier roman ou dans d'autres livres antérieurement, notamment ceux qui m'ont été inspirés un peu par la culture japonaise. C'est l'idée que même quand on parle de soi dans un livre, essentiellement, l'expérience que l'on fait est une expérience de dépersonnalisation. Ouais, il s'agit de devenir à la fois personne et tout le monde, comme le dit souvent Borges et comme le dit aussi Shakespeare, en fait.
Oui, il y a vraiment quelque chose à la fin du livre dont on va parler tout à l'heure, qui est à la fois la conscience ou l'approche qu'on partagerait le même secret, mais sans finalement tant savoir que ça, ce secret que nous partageons. Et donc il y a aussi voilà, une sorte d'infini, quoi. Pour moi, j'ai vraiment aussi lu votre livre comme un livre sur l'éternité. Mais on va y venir. Éternité où il y a aussi une figure d'enfant, et ça aussi, c'est pas la première fois dans vos livres, Philippe Forest. Est-ce que vous vous souvenez, en tant que lecteur, là encore, avoir rencontré une figure, une silhouette ou un vrai personnage d'enfant qui vous aurait marqué?
Quand j'ai écrit mon premier roman, donc c'était il y a presque 30 ans maintenant, L'Enfant éternel, il y a deux livres notamment qui ont compté pour moi et qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans l'écriture de ce premier roman et qui avaient pour héros des enfants. Et il y avait les livres du romancier japonais que j'ai connu par la suite, Hoe Kenzaburo, qui a obtenu le prix Nobel de littérature il y a 25 ans, peut-être plus, 30 ans maintenant, et qui a construit une large partie de son œuvre autour de la relation qu'il a entretenue avec son fils handicapé, Ikari. Et donc ça a été quelque chose d'important pour moi, parce que ça me montrait que un romancier d'aujourd'hui, et un romancier authentiquement moderne, voire expérimental, comme c'était le cas de Hoe, pouvait, sans sombrer dans le sentimentalisme niais, construire une œuvre importante et toujours renouvelée autour de cette question qui avait fait surgir dans sa vie, donc la naissance de cet enfant malade, de cet enfant handicapé. Et puis il y a un autre livre sur...
Qu'est-ce qui vous étonnait là-dedans? Parce que vous dites, ça m'a démontré que, comme si ça partait d'un impossible.
Parce qu'il y a un préjugé quand même assez fort, notamment dans la littérature française, et plus encore dans la littérature française telle que je la lisais à l'époque, disons la littérature d'avant-garde, qui veut qu'il faille pas toucher aux sujets trop sentimentaux, trop pathétiques, parce que c'est incompatible avec la vraie littérature. Hoe et d'autres prouvent le contraire. C'est-à-dire, on peut affronter le pathétique, on peut ne pas rechigner ou reculer devant le sentiment, et malgré tout produire une œuvre qui soit authentiquement littéraire dans ses exigences.
Et le deuxième roman,
il se trouve que je suis en train de le relire pour un projet sur lequel je peux pas trop m'étendre pour le moment. Je vais garder le mystère aussi. Mais c'est le Peter Pan de James Barry.
Voilà. Oui, vous dites que c'est une forme qui a été presque souterraine à ce premier roman, L'Enfant éternel.
Oui, et puis même c'est dans une certaine mesure, L'Enfant éternel était en partie une réécriture du Peter Pan, mais avec un intérêt pour moi moins pour la figure de Peter Pan que pour la figure de la petite fille de Wendy. Voilà.
Oui, vous voulez pas en dire davantage.
Je peux pas. Je reviendrai vous en parler dans un ou deux ans.
D'accord. Dans un article en 2013, donc il y a une bonne dizaine d'années, en dialogue avec Agnès de Sarthe et sur des questions qui étaient relatives à la lecture, Philippe Forest, vous citiez Derrida en parlant de la littérature comme un pharmacon, à la fois le poison et à la fois l'antidote. Est-ce que vous pouvez détailler ça? Qu'est-ce que ça dit de votre rapport à la lecture? Qu'est-ce que ça dit de vous en tant que lecteur? De trouver dans les livres poison et antidote?
À vrai dire, je me rappelle plus très bien ce que je disais.
Alors allons-y, improvisons sur quelque chose que vous avez peut-être dit un jour.
Non, je l'ai sûrement dit, mais je me rappelle pas l'avoir dit dans ce contexte-là, et donc je me rappelle pas vraiment ce que voulait dire ma prise de position à l'époque. Mais il y a ce texte effectivement célèbre de Derrida qui s'appelle La Pharmacie de Platon, si ma mémoire est bonne. Et ce qui m'intéresse chez Derrida, mais en fait il reprend une réflexion qui ne lui appartient pas en propre et qu'on trouve du côté de beaucoup d'écrivains ou de penseurs du XXe siècle, de la modernité, disons. C'est l'idée qu'il y a une dualité essentielle dans la littérature et qu'elle est à la fois poison et contre-poison. Elle nous confronte au mal, mais elle nous permet de nous prémunir en quelque sorte contre celui-ci. Alors je sais plus ce que je disais, mais ce qui m'arrive...
Peu importe ce qui nous intéresse, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Ce qui m'arrive souvent de dire et que je vais dire à nouveau, donc c'est que moi, je suis très hostile à l'idée d'une littérature qui serait une littérature purement thérapeutique.
Ou consolatoire. Vous voilà. Dites souvent que c'est quelque chose qui vraiment
voilà,
vous intéresse
voilà, je suis
pas.
Parti en guerre dès mon premier roman et je persiste et signe contre ce que j'appelle la religion de la résilience. Donc je veux bien qu'il y ait une dimension cathartique à la littérature, si on veut, mais il faudrait s'entendre sur le sens du mot catharsis et c'est compliqué. Mais c'est aussi forcément et nécessairement une confrontation avec l'irrémédiable, avec un mal dont on ne se guérit pas. Donc voilà, c'est peut-être ça que j'ai dit.
Sens où elle ne consolera pas.
Non, je suis contre cette idée de littérature consolatrice. Mais quand je disais tout à l'heure que les mots, ils sont là pour nous accompagner dans la nuit, ça veut dire que malgré tout, il y a un secours à attendre d'eux. Mais ce secours, il ne doit pas être dans l'idée ou dans l'espoir de se sauver d'une façon définitive d'un mal qui fait partie de notre condition et qui nous fait humains, en quelque sorte.
De toute façon, quand vous dites des mots pour accompagner dans la nuit, par conséquent, la nuit ne disparaît pas. Donc
non.
La nuit est là.
Elle
est là, et la nuit est là, la mort est là, la disparition est là, le manque est là, enfin, il y a quelque chose qui demeure. On va parler de votre livre, Philippe Forest, juste après, une comptine brésilienne. C'est un tube des années 1980, mais qui est repris ici par le duo Birds on a Wire. L'une ou la première apparition de la petite fille dans votre livre la montre jouant à la marelle. Et c'est justement le titre de cette chanson, dont un des couplets traduit vers un français dit « Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. » Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Jogo da amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La nuit accouche du jour, pas l'inverse. L'univers, avec sa clarté toute relative, fut conçu dans l'obscurité dont naquirent les êtres et les choses. Une obscurité grosse de la somme de ses possibles et qui ainsi contenait déjà tout de la vie encore à venir. Il y eut un temps d'avant le temps et que répète le temps. Peut-être s'agit-il là d'une illusion, peut-être ce temps d'avant le temps et que le temps répète, n'a-t-il jamais existé ailleurs ou autrement que dans l'esprit de celui qui s'en souvient et qui l'a oublié? Qui se souvient juste qu'il l'a oublié. Le présent invente le passé, il l'invente, afin qu'il advienne dans le présent où seul ce passé possède sa place. C'est un extrait de votre nouveau roman, Philippe Forest, qui nous renseigne sur sa pensée toute circulaire et enchevêtrée, interrogeant le mouvement qui va du modèle au tableau, du réel au souvenir, du rêve à la réalité, du passé au présent, du vrai à la fiction. C'est un roman comme un conte d'hiver, un conte sur l'éternité, un conte de Noël presque, que le narrateur projette d'écrire depuis longtemps. Les flocons blancs et mélancoliques rappellent une ou plusieurs enfants morts, à moins que ce ne soit complètement l'inverse. Et personne ne sait, apparu aux éditions Gallimard, et on va en parler un peu plus avec vous, Philippe Forest. Dans ce livre, donc, il y a quelqu'un qui nous parle d'un roman qui, lui, peut-être nous parle d'un film ou inversement. On va commencer par un extrait de ce film, ça s'appelle Portrait of Jenny. C'est un film réalisé par le réalisateur américain William Dittel, sorti en 1949.
I know a song. Would you like to hear it?
I'd love to.
Where I come from, nobody knows. And where I am going, everything goes, the wind blows, the sea flows, nobody knows. And where I am going, no.
La chanson ne lui dit rien, il ne l'a jamais entendue. Même si la mélodie et les paroles sont si simples qu'elles lui paraissent forcément familières. Une fois qu'il l'a écoutée, il se dit qu'il l'a toujours su. Les paroles des chansons que l'on a apprises lorsque l'on était petit sont pareilles aux flocons auxquels on ne croyait plus, mais qu'une nuit d'hiver, parfois, fait descendre doucement du ciel. On croyait les avoir oubliées, on ne se rappelle plus les avoir apprises, mais on les reconnaît. Elles reviennent en mémoire. Elles restaient enfouies dans l'un des coins de sa tête. D'où je viens, personne ne le sait. Où je vais, tout s'en va. Le vent se lève, la vague déferle, et personne ne sait. Avec un naturel dont le jeune peintre n'aurait pas été capable, la petite fille s'adresse à lui. Une maturité qui n'appartient qu'aux enfants.
Philippe Forest, c'est un premier extrait de votre livre « Et personne ne sait » et juste avant, un extrait de ce film de 1949, « Portrait of Jenny », la scène toute particulière et sur laquelle vous revenez beaucoup dans votre texte, le narrateur revient beaucoup, celle où la petite chante, cette fameuse comptine mystérieuse. Comptine, donc, vous faites quoi ? À quoi elle vous sert, cette comptine-là, Philippe Forest ?
Elle sert de cadre au livre, puisqu'en fait, chacune des phrases de la chanson va devenir le titre d'un des chapitres. Donc c'est comme une sorte de fil d'Ariane que je suivrai au sein d'un labyrinthe où pourtant je m'égare et où je pense le lecteur va s'égarer avec moi. J'aime bien l'idée que la littérature, elle soit là pour nous parler de ce qui nous échappe et de ce que nous ne pouvons pas ne pas suivre pourtant. Voilà.
Il y a quelque chose aussi dans la comptine, comme on l'entend dans l'extrait de votre texte, qui est de l'ordre de toujours déjà su ou toujours déjà entendu, qui revient, que l'on ne peut pas comme découvrir, ça n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée-là ?
J'ai toujours été fasciné par ce qu'on appelle les impressions de déjà vu. Et en un sens, réécrivant toujours la même histoire sous des formes différentes, comme je le fais de livre en livre depuis l'enfant éternel, j'essaye de creuser cette expérience du déjà-vu en reprenant une histoire que je connais, que mes lecteurs connaissent, mais en essayant malgré tout de rejouer à chaque fois quelque chose de nouveau avec elle. Donc ça suppose un travail sur la reprise, sur la variation, et c'est ce travail-là qui pour moi se confond avec l'écriture de mes romans.
Est-ce que ça suppose aussi d'attraper quelque chose qui vous permette de rejouer l'histoire ou de repartir pour un tour d'écriture, Philippe Forest? Et est-ce que dans ce cas, le film de 1949 joue ce rôle?
Le film, oui, joue ce rôle. Et c'est-à-dire, en fait, je suis dans une situation particulière depuis des années. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ma propre histoire me revient en quelque sorte sous des formes insolites, sous des formes inattendues. Comme s'il y avait des histoires comme ça qui me tiraient par la manche, qui me tapaient sur l'épaule et qui me disaient « Regarde, écoute, c'est ton histoire.
Voilà,
il faut que je te raconte à nouveau cette histoire pour que, à ton tour, tu la racontes. » Et c'est un peu le point de départ de la plupart de mes livres. C'était le cas pour Sarina Guerra il y a une vingtaine d'années. C'était le cas aussi pour le livre dont on parlait tout à l'heure, « Je reste roi de mes chagrins ». Et c'est le cas aussi pour ce film qui apparemment raconte une histoire qui est sans grand rapport avec la mienne, mais qui malgré tout fait résonner en moi quelque chose qui suscite le désir de raconter à nouveau alors que je pourrais m'arrêter.
Qu'est-ce que raconte ce film alors, si on essaye de faire ce travail un peu d'ailleurs que semble faire au début votre narrateur qui nous dit gentiment « Attendez, bienvenue, je vais vous raconter l'histoire d'un film, lequel a aussi été adapté d'un roman ». Au début, on a l'impression qu'on va s'y retrouver. On se perd après.
Oui, et en fait, ça s'avère beaucoup plus compliqué que le narrateur ne le pense et ne le dit au départ. D'abord parce que il y a ce film et ce livre et ils ne racontent pas tout à fait la même histoire. Et puis, ensuite et surtout, parce que moi-même, je ne me sens pas tenu par un quelconque devoir de fidélité à l'égard de ces deux histoires. Donc, je les réinvente, je m'en écarte, je les tords. À ma manière, mais en gros, c'est l'histoire d'un peintre, donc à New York, au milieu du XXe siècle, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un peu découragé parce qu'il a le sentiment, finalement, d'avoir échoué dans sa vie et dans son œuvre, et qui, un jour, donc, rencontre à Central Park, un jour qui est peut-être, ça c'est moi qui le rajoute le soir de Noël, enfin un jour d'hiver en tout cas, alors qu'il neige sur Central Park, rencontre donc une petite fille qui mystérieusement est seule, comme ça, dans ce grand jardin au beau milieu de la nuit, et cette petite fille, il va la voir revenir dans son existence, mais de façon insolite, parce qu'à chaque fois, elle donne l'impression d'avoir grandi, d'avoir vieilli de quelques années. Bon. Et il va faire le portrait de cette jeune fille dont il va devenir en quelque sorte plus ou moins amoureux. Et on ne sait pas très bien donc si c'est un fantôme ou si c'est lui qui est le fantôme. Enfin, à vrai dire, on n'y comprend rien. Et jusqu'au bout, moi, je suis incapable encore aujourd'hui de donner une explication rationnelle à cette histoire. Mais c'est précisément ça qui m'intéresse.
Et ça devient presque le sujet, ou ça devient le sujet de votre livre. On va y venir, mais on va faire dans un premier temps semblant qu'on y retrouve nos petits. C'est le cas de le dire. Dans cette variation d'écriture, donc le motif du roman, du conte d'hiver, introduit aussi l'hiver, vous l'avez dit, c'est un soir où il neige sur Central Park, vous en faites un soir de Noël, le narrateur dit que sa fille, qu'il a perdue par un cancer, est née un soir de Noël, et que depuis il ne fête plus Noël. Mais il y a aussi l'idée, pour poser les jalons du début de votre roman, Philippe Forest, d'être à l'hiver de sa vie. Et c'est aussi une des variations de ce texte-là, c'est un hiver qui n'est pas que le temps qui a passé, qui n'est pas que la vieillesse, qui serait autre chose, mais un hiver qui, parfois, a abandonné l'idée du renouveau et du printemps, ou parfois, y prétend encore. Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage, l'hiver de la vie de votre narrateur?
Oui, le narrateur raconte l'histoire d'un homme qui est un jeune homme, un jeune peintre, mais lui-même a cessé depuis longtemps d'être un jeune homme et d'être en l'occurrence un jeune écrivain. Et donc, il se trouve confronté comme ça à une expérience qui est aussi l'expérience du vieillissement, de l'épuisement, le sentiment d'avoir tout dit et d'être bientôt en situation de devoir se taire avec quelque chose qui est peut-être un peu aussi de l'ordre de la paranoïa, si on a tous le sentiment de ne pas être compris comme on devrait l'être. Donc voilà en quelque sorte le point de départ du récit, mais avec cet espoir qui ne quitte pas le peintre et qui ne quitte pas non plus le narrateur, ouais. de pouvoir faire ressurgir quelque chose aussi bien dans sa vie que dans ses livres. Et c'est un peu l'enjeu du récit. Mmh.
Parce qu'il y a à la fois l'idée que l'hiver, ce serait, pour les deux d'ailleurs, dans une inspiration finissante pour le peintre et dans un moment de sa vie pour le narrateur, quelque chose qui se termine. Et en même temps, votre livre, Philippe Forest, est tellement construit sur la spirale et le renouveau que vous produisez de ce fait une réflexion sur la vie qui est que il y a toujours un mini, pour ceux qui sont vivants, il y a toujours un mini espoir que la vie se relance, qu'elle se renouvelle, quelle que soit la pente d'hiver dans laquelle nous serions. Ce serait à peu près ça.
Oui, oui, c'est un livre sur le recommencement, dans la fidélité à la perte et dans le souvenir du manque. Si on peut, ouais.
Donc il y a quelque chose qui à la fois reprend, mais sans perdre la perte. Est-ce que je suis...
Oui, oui. Ce verbe reprendre, moi, je m'en suis beaucoup servi parce que il y a un livre, puisqu'on parlait de lecture tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé, qui est le livre du philosophe danois Kierkegaard, qui s'appelle La Reprise. Et c'était à l'époque où j'écrivais mon deuxième roman, Toute la nuit, qui était donc en quelque sorte la reprise du premier, L'enfant éternel, puisque je racontais à nouveau, mais de manière différente, la maladie et la mort de ma fille. Et ce qui m'avait frappé donc dans le livre de Kierkegaard, et c'est pourquoi j'avais fait usage de ce mot reprise, c'est que Kierkegaard définit la reprise comme un souvenir en avant. Mais c'est un peu le principe sur lequel j'essaie de construire la série de mes propres livres. C'est-à-dire, il faut être fidèle au souvenir, mais toujours dans le désir de projeter ce souvenir vers l'avant sous une forme différente.
Ouais. Il y a quelque chose du temps qui tremble, et personne ne sait, dont on est un peu prévenu dès le titre, Philippe Forest, et dans l'extrait que je lisais pour introduire notre conversation, c'est le jour... C'est la nuit qui accouche du jour et pas l'inverse. C'est-à-dire que petit à petit, il va falloir se faire à l'idée, plus on avance dans votre narration, Philippe Forest, que, on va dire, notre conception quotidienne du temps est plus qu'ébranlée. Il faut la quitter. Il faut radicalement la quitter pour exister dans autre chose. Mais moi, je repense à un autre de vos textes qui s'appelle Le chat de Schrödinger. Et c'était aussi une manière d'ébranler très, très, très profondément notre conception quotidienne du présent et de l'absence, quoi. Et c'est comme si vous, par la littérature, vous parveniez à provoquer presque des expériences physiques, quoi, du rapport au temps ou du rapport à la matérialité. Je sais pas si je suis claire.
Autant qu'on puisse l'être sur
voilà,
un sujet qui,
chance,
est,
exactement.
Qui est aussi compliqué.
Vous ne facilitez pas la tâche non plus.
C'est-à-dire, moi-même, c'est pas très clair pour moi, mais c'est pour ça que j'ai continué à écrire. C'est parce que je me trouve, comme chacun d'entre nous, à confronter à un réel qui est de l'ordre de l'énigme.
Ouais.
Donc, on peut pas avoir le dernier mot sous quelque forme que ce soit. Et donc, je vais comme ça d'énigme en énigme et je vais les chercher à droite et à gauche. Mmh. Du côté de la physique quantique dans le chat de Schrödinger, comme vous le rappeliez, ou du côté de ce film, là pour le livre dont nous sommes en train de parler, mais c'est pas tellement intellectuel, c'est quelque non, chose,
c'est pour ça que je dis des expériences physiques, c'est-à-dire aussi au sens presque du corps, quoi.
Et c'est lié à l'expérience dont je parle et que chacun d'entre nous connaît sous une forme ou sous une autre. Quand je parle du deuil et particulièrement du deuil parental, ça a cette spécificité de faire sortir complètement du temps, parce que le temps, ça se définit par la capacité précisément que l'on a à se projeter vers l'avenir. Or, dans l'expérience du deuil et du manque, c'est justement cette capacité à se projeter vers l'avenir qui fait défaut, et du coup, on a l'impression vraiment de flotter dans une sorte, j'allais dire, de no man's land, mais ça se dit pas tellement en termes d'espace, en termes spatiaux, ça se dit plutôt en termes temporels. D'où sans doute, et on en parlait juste avant, cette idée de reprise, comment réintroduire du temps alors que le temps fait définitivement défaut.
Voilà. J'aimerais qu'on écoute la voix d'un auditeur, il s'appelle Édouard, il vous a lu et il va nous, peut-être avec sa question, nous emmener sur le terrain de la peinture.
Bonjour le Book Club, bonjour Philippe Forest. J'ai été particulièrement emporté par la manière qui vous est propre d'évoquer l'absence avec des mots souvent aériens et très poétiques. J'en viens à vous poser cette question: en quoi le médium de la peinture permet selon vous d'accentuer plus qu'un autre la question de l'absence? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci à vous, Edouard, pour ce témoignage de lecture et pour cette question, Philippe Forest. En effet, on l'a dit, donc il y a à la fois ce film qui met en scène un peintre qui va peindre selon l'apparition ou le modèle de la fille et de la jeune fille. Mais il y a aussi tous ces autres tableaux que vous évoquez, Philippe Forest, et que vous décrivez.
Mais là aussi, ça renvoie à cette enfance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, pour moi, les tableaux, c'est un peu comme les images qu'on trouve dans les livres illustrés que l'on lit lorsqu'on est enfant. Et on ne sait pas très bien ce que veulent dire ces images, pas plus qu'on ne sait lorsqu'on va visiter le Louvre et qu'on est un petit garçon ou une petite fille. On ne sait très bien à quoi renvoient les grands tableaux monumentaux devant lesquels on passe. Donc, on est en situation de devoir inventer une histoire pour des tableaux qui se taisent. Et moi, j'ai toujours été très intéressé par la peinture parce que justement, elle renvoie à ce goût enfantin pour l'image qui était celui de beaucoup d'écrivains. Hein. Baudelaire parle de ça. Hein. C'est-à-dire le goût vraiment enfantin des images et des illustrations. Donc, je me place devant des images qui ne disent rien, que je ne comprends pas tout à fait. Et j'essaye d'inventer une histoire qui permette à ces histoires de s'intégrer à l'intérieur de l'histoire que je raconte. Donc, j'ai beaucoup écrit sur la peinture, mais en fait je l'ai jamais fait d'un point de vue, j'allais dire, sérieux ou scientifique, parce que je suis pas du tout un historien de l'art, mais j'ai écrit sur beaucoup de peintres, j'ai écrit sur des artistes contemporains, j'ai écrit un petit livre sur Rubens, et à chaque fois je me suis mis dans cette posture qui consiste à regarder donc ces images que je ne comprends pas pour essayer d'inventer une histoire qui, j'allais dire, leur donne un sens, mais plutôt qui fasse apparaître le non-sens essentiel dont ces images sont porteuses. Et là, donc, ça prend la forme d'une promenade à l'intérieur du Metropolitan Museum de New York. Puisque le tableau que peint le peintre dont je parle dans mon livre est censé être un chef-d'œuvre qui finit au Metropolitan. Voilà.
La question d'Edouard portait aussi sur la question de l'absence, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la peinture ou en quoi la peinture vous permet d'affiner encore cet art de saisir l'absence, Philippe Forest?
C'est une question compliquée, mais je crois précisément par ce silence essentiel qui est celui de la peinture. Faire parler ce silence, c'est en quelque sorte essayer de faire parler quelque chose qui se caractérise par le retrait dans lequel cette image se tient. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais
c'est là. De fait, c'est muet. En tout cas, c'est muet. Donc, forcément, il y a une absence, il y a quelque chose qui ne parle pas tant qu'on n'a pas.
Et particulièrement du côté de ces tableaux, qui sont des tableaux figuratifs. Hein, je choisis à dessein des tableaux américains, qui sont en général des tableaux peu connus, en tout cas, qui n'étaient pas connus de moi avant que je m'intéresse à la question, qui sont peu connus des Français, je crois, du manière générale.
Et qu'ont-ils en commun ces tableaux que vous choisissez de faire décrire à votre narrateur?
Chacun vient en quelque sorte en contrepoint de ce que a raconté le chapitre qui précède dans le livre ou le chapitre qui va suivre, et ce sont souvent des tableaux qui représentent des enfants parfois des tableaux qui représentent la nature aussi dans ce qu'elle peut avoir de majestueux et de menaçant. Donc j'illustre en quelque sorte mon récit à partir de ces images dont je ne sais pas trop ce qu'elles signifient et que j'emprunte au catalogue du Metropolitan.
Depuis toujours, et même quand elle semble s'en éloigner complètement, une des grandes questions théoriques de la peinture, c'est son rapport au réel, c'est son rapport à la représentation, y compris quand on est du côté de l'abstraction totale, mais aussi quand il y a du portrait dans l'air, son rapport au modèle, Philippe Forest. En quoi est-ce que ça vient dialoguer avec le geste d'écriture que vous faites, vous ?
Précisément, ce qui m'intéresse dans les tableaux, c'est moins qu'il représente au sens banal du terme le réel, que la capacité, la faculté qu'ils ont d'ouvrir en quelque sorte sur un autre univers qui est celui du rêve, tout simplement, mais qui est aussi celui de l'imaginaire, l'imagination, la reine des facultés. Voilà, c'est Baudelaire qui dit ça aussi, et à partir de tableaux qui ne sont pas très différents de ceux dont je parle dans ce livre.
Petit à petit, ou même dès le départ, cette petite fille du film, petite fille du livre, mais aussi petite fille du roman, a un statut incertain. Est-ce qu'elle est vraiment vivante? Est-ce que c'est un fantôme? On a parlé de ce motif de la reprise de Kierkegaard, mais il y a aussi l'idée du retour, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Mais c'est pas non plus complètement hanté. Ça revient, ça fait quelque chose au monde, au réel, au narrateur, au peintre, à tout le monde, ce retour de la petite fille, Philippe Forest. Là aussi, aussi, est-ce qu'il y a dans ce roman une manière de, un peu méta, de parler de votre propre régime d'écriture depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'idée d'une petite fille qui reviendrait et qui donnerait, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'occasion de nouveau écrire ?
Oui, c'est une revenante, cette petite fille, qui fait paradoxalement revenir à la vie quelqu'un qui paraissait vivant, mais qui ne l'était peut-être pas autant que ça, parce que l'hypothèse que j'avance aussi, parce que comme cette histoire, on ne la comprend pas, je multiplie les interprétations à l'intérieur du livre. Ce peintre, c'est peut-être lui, en quelque sorte, le fantôme.
Et on ne sait pas s'il est vivant, lui non plus.
Voilà.
Mais en même temps, comme il est réveillé et comme il est rendu à la vie, on se dit, ah, bah, peut-être qu'il l'était moins avant. Il n'était peut-être pas mort, mais il était moins vivant.
C'est ça, il était dans une sorte d'état intermédiaire dont il a fallu ce surgissement de cet enfant pour qu'il sorte.
On va écouter une archive de Claude Simon, c'est une archive qui date de 1976 et il parle de la mémoire.
On n'écrit pas comme on se souvient ou comme on imagine. On oublie que le discours ne reproduit jamais ce qui se passe dans une conscience ou dans un inconscient. Le plus réaliste en apparence des monologues intérieurs est toujours, avec plus ou moins de réussite, soigneusement construit et composé. Alors certainement, notre mémoire et notre imagination travaillent par association, et mes textes fonctionnent aussi très souvent de cette façon. Mais dans notre mémoire ou dans notre imagination, rien n'est organisé. Je veux dire, rien n'est composé, rien n'est structuré. En fait, ça se passe un peu comme dans la fameuse écriture automatique des surréalistes, oui, où on ouvre sans cesse des parenthèses qui ne se referment jamais, de sorte que le discours n'a littéralement ni queue ni tête et finit tout simplement par se perdre dans les sables. Une des plus grosses sottises, je crois, qu'on ait écrite à propos de Proust, c'est qu'il explorait la mémoire. Grâce à Dieu, il a fait tout autre chose qu'explorer la mémoire, parce que s'il s'était contenté de faire ça, ben, il se serait perdu dans un dédale de couloirs qui ne l'aurait mené, ni lui, ni son lecteur, à rien. Ce qui n'est pas précisément le cas.
Claude Simon, 1976, Philippe Forest, est-ce que vous adhérez à l'idée que la mémoire, d'abord, ou l'inconscient, n'est pas structurée, n'est pas organisée, et qu'un des gestes d'écriture, ce serait de la structurer et de l'organiser ?
Oui, moi, ce à quoi me faisait penser le discours là, de Claude Simon que l'on vient d'entendre, c'est à ce que disait un autre écrivain sur lequel j'ai travaillé, qui est Aragon. Il disait « je me souviens, c'est-à-dire je m'imagine ». Et en fait, la mémoire, c'est très largement une fiction. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs, à commencer par Proust ou par Freud, qui en ont parlé. C'est-à-dire, le souvenir n'existe qu'à partir du moment où on lui donne un statut par l'imagination, par la parole, ou plus encore par l'écriture. Donc, il y a le réel, il y a ce qui a eu lieu, mais ce qui a eu lieu n'existe jamais indépendamment de la forme qu'on lui donne par les mots. Je me rappelle d'ailleurs que Claude Simon, dans le discours qu'il a prononcé pour le Nobel, disait une chose qui m'avait beaucoup frappé. C'est en fait, il citait Stendhal qui racontait qu'il avait participé à la campagne d'Italie avec Bonaparte, et que quand il se rappelait la descente des Alpes, en fait, il s'est rendu compte qu'il ne se rappelait pas l'événement tel qu'il l'avait vécu, mais l'événement tel qu'il l'avait vu représenté bien des années après sur une gravure. Et en fait, ce qu'on prend pour un souvenir, c'est très souvent une création postérieure à l'événement vécu qui finit par prendre la place de la chose qui a eu lieu.
Et très souvent aussi composite, c'est-à-dire que là c'est une gravure mais ça pourrait être presque une version concassée d'une gravure et d'un extrait d'un récit et peut-être d'un article de journal qui recomposerait un prétendu souvenir. Est-ce que c'est ça que vous écrivez, Philippe Forest, quand vous écrivez « Le présent invente le passé,
oui.
Il l'invente afin qu'il advienne dans le présent où seul ce passé possède sa place ». C'est vrai que c'est vert. Mais à vous relire, on entend ça.
Oui, mais c'est la question de l'après-coup. C'est dans l'après-coup de l'événement que l'événement prend sens. Et la littérature, notamment, mais la peinture aussi, elle est une tentative pour faire exister ce qui a été sous une forme qui puisse encore être présente à notre présent, en quelque sorte.
Et c'est ça que vous disiez tout à l'heure quand vous utilisiez cette expression vertigineuse aussi, qui est le souvenir vers l'avant, produire du souvenir vers l'avant.
Oui, c'est ça. On s'empare du passé pour le faire exister encore, mais sous une forme qui est infidèle à ce que le passé a été. C'est pour ça qu'il y a une grande inquiétude et même une certaine culpabilité à écrire. Parce que...
C'est-à-dire ?
On doit avoir conscience du fait que dire ce qui a été, c'est aussi lui être infidèle. Parce que ce qu'on dit de quelque chose, au moment où on le dit, ça n'est plus la chose telle qu'elle a été. Ou pour parler peut-être plus clairement et plus simplement, lorsque je raconte l'expérience qui a été la mienne, comme je l'ai fait déjà dans L'Enfant éternel, je transforme cette expérience vécue et les personnages, les êtres vivants qu'elle concernait, en un récit, c'est-à-dire en une contrefaçon d'une certaine manière.
Mais qu'il les remplace, à la fois la petite fille qui était la vôtre et qui est morte, et les gens qui l'entouraient, ça les remplace, vous diriez ? C'est ça quand vous dites c'est infidèle à ce point-là ?
Oui, c'est ça. Je pense que dire le passé, d'une certaine manière, c'est tenter de le faire encore exister, mais sous une forme qui est nécessairement infidèle et donc coupable.
Donc le quitter aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y aurait comme un paradoxe ou une équation impossible à résoudre. Ce serait dire le passé pour ne pas qu'il échappe totalement, mais le dire, c'est le quitter tout à fait, puisque le dire, c'est le trahir. Donc ce qu'on aura écrit, ce sera de toute façon une façon de le quitter, puisque nous l'aurons transformé. C'est terrible.
Ben oui, mais ça correspond assez à la réalité, je crois. Moi, ce qui m'a aidé à comprendre un peu ça, c'est le célèbre texte de Primo Levi qui s'appelle Les naufragés et les rescapés, à propos du témoignage que Levi avait lui-même produit concernant donc son expérience concentrationnaire. Encore que je ne mette pas du tout de signe d'égalité entre l'expérience qu'il a vécue et celle que peuvent vivre les personnes qui sont frappées par une forme ou une autre de deuil. Mais ce que Lévy dit, c'est que le témoignage, il est à la fois indispensable et indigne, indispensable et impossible. Parce que les seuls qui auraient le droit de témoigner, c'est ceux qui ne sont plus en mesure de le faire, parce que précisément, ce sont les naufragés, ce sont eux qui ont disparu. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que à la fin de L'Enfant éternel, donc mon premier roman, je dis quelque chose comme j'ai fait de ma fille un être de papier. Et je suis toujours étonné qu'il y ait des lecteurs qui prennent ça comme une sorte de proclamation un peu triomphale, comme si finalement la littérature, elle sortait victorieuse de la mort et elle permettait à un être vivant, dont en l'occurrence cette petite fille, d'accéder à une forme d'éternité.
Alors que vous le déplorez d'une certaine manière.
Oui, ouais. Quand je dis que j'ai fait de ma fille un être de papier, je considère que c'est un exploit qui est totalement dérisoire et qui même d'une certaine manière est indigne, parce que l'enfant de papier n'est rien par rapport à l'enfant véritable, l'enfant réel qui a disparu. Enfin, je suis très hostile à tout ce discours qui vise à présenter la littérature comme susceptible de nous permettre de triompher de la mort et de triompher du temps. Elle n'est pas inutile, mais il faut qu'elle ait conscience, mélancoliquement conscience de son échec.
J'allais y venir justement, Philippe Forest, c'est-à-dire que si vous voulez bien, je ne sais pas si c'est possible, que l'on mette un instant de côté avec la question que je vous pose, l'immense question de la perte et du deuil, est-ce que la mélancolie de ce conte d'hiver, est-ce que la tonalité de ce conte d'hiver qu'on lit sous votre plume n'a pas précisément à voir avec ça, c'est-à-dire avec l'échec de la ressaisie du passé par notre parole ou par notre écriture quand il s'agit de littérature, mélancolie qui serait plus celle-ci que presque la mélancolie de la perte. Je ne sais pas si je suis claire de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, en fait,
la musique de ce texte-là a encore plus à voir avec le côté impossible de la tâche, quoi.
Mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire la perte du passé suscite la mélancolie que redouble la conscience que l'on doit avoir de l'incapacité à restituer le passé par des mots ou par des images. Ça ne veut pas dire que ça soit inutile, hein, parce que sans ça, je le ferais pas depuis si longtemps et avec autant de, je sais pas comment dire, d'obstination ou de ténacité. Je pense qu'il y a une utilité de la littérature, mais la littérature n'est utile que dans la mesure où elle a conscience de cette contradiction, de ce paradoxe et de cet impossible finalement auquel elle s'affronte.
D'ailleurs, vous y allez, Franco, il me semble que vous l'affrontez, cet impossible, avec le blanc, avec la couleur du blanc, le blanc de la neige, le blanc du vide, jusqu'à presque enserrer un point muet, un point absent, invisible, voilà. Et petit à petit, à réduire comme votre variation dans votre roman autour de ça. On écoute un dernier extrait.
Depuis longtemps, depuis toujours, je cherche l'histoire la plus simple, celle que j'appelle l'histoire parfaite. Bien sûr, j'échoue. Plus je la cherche, et plus elle m'échappe. Chaque fois que je la raconte, j'ai l'impression que je m'en éloigne davantage. Je me dis que je ne la trouverai jamais. Parfois, je pense au contraire que chaque fois, je m'en rapproche. Et qu'il me suffirait d'un peu de chance, d'obstination ou de talent pour que je la tienne. C'est pourquoi, en dépit de tout, et même s'il m'arrive d'y croire de moins en moins, je continue. De cette histoire, je possède seulement une idée très vague. Nul ne sait qui l'a inventée, et chacun s'imagine en être l'auteur. Elle parle de tout et de rien, de personne ou bien de chacun. Quiconque la lit y retrouve la sienne. Mais sous une forme telle qu'elle ne lui appartient plus, qu'elle n'appartient plus à personne. Et nul ne sait ce qu'elle signifie.
Un dernier extrait de votre texte, Philippe Forest, et personne ne sait. Peut-être pour faire entendre ce vers quoi tend le texte. Alors, on a beaucoup dit qu'il y avait une sorte de tourbillon, de vertige, de perte de repères dans la narration. Mais presque les moments où ça se précise autour du vide. Ça se précise autour de la dépersonnalisation, ça se précise autour de l'absence de sens, quoi. On a l'impression que c'est cela qu'enserre finalement votre roman, Philippe Forest.
Oui, une sorte de mystère, de secret essentiel. Mais je crois que la vérité, elle est là, elle est de ce côté-là. Donc c'est pas du tout un propos nihiliste.
Nihiliste, oui, non, pas du tout.
Mais c'est une confrontation avec ce vide essentiel où se tient, la vérité de nos vies et la vérité du monde. Donc ça suppose une prise de distance à l'égard de soi-même. Parce que cette histoire que je raconte, effectivement, je le dis, je l'ai dit dans mes livres précédents, elle n'a de valeur que dans la mesure où elle est l'histoire de tout le monde et celle de personne. Ça nous ramène à ce que Borges disait de Shakespeare.
De tous les hommes, mais c'est pour ça que on a peu parlé de ce jeu là qui tremble et qui dit je vais vous raconter un roman et un film et je vais pas dire qui je suis et puis tout en nous livrant des aspects de sa vie qui par ailleurs si on vous lit, ressemble un petit peu à la vôtre, Philippe Forest. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui trempe du côté de ce jeu. Et en même temps, je disais, moi, je l'ai lu, votre livre, comme un conte d'éternité, c'est-à-dire ce qui arrive à ce jeu est arrivé de tout temps à l'humanité. C'est un peu grandiloquent, mais c'est un peu ce que raconte votre livre et ce que semblent raconter les tableaux. Enfin, c'est les enfants qui sont tous des enfants, sauf les enfants. Et vraiment, il y a quelque chose du tout.
Oui, mes premiers livres étaient plus frontalement autobiographiques. Ça m'arrive encore de pratiquer la littérature sur ce mode-là, mais
ça veut
c'est moins en moins le cas.
Ça veut pas dire que l'autobiographie est absente ici.
Non, parce que c'est toujours la même expérience à laquelle je suis fidèle et que j'essaye de dire. Mais je dirais que ma propre personne ne m'a jamais beaucoup intéressé et elle m'intéresse de moins en moins. Donc j'essaye de m'évanouir en quelque sorte, en apparence au moins, pour laisser le plus de place possible dans mes récits, une histoire à l'intérieur de laquelle chacun d'entre nous puisse se reconnaître.
Mais c'est un abandon du singulier ? Ce serait un abandon du singulier ?
Oui, ou c'est essayer de toucher ce qu'il y a précisément de plus singulier en chacun d'entre nous.
Mais quand vous touchez ça, on a l'impression qu'à chaque fois que vous le touchez, ça s'évanouit pour rejoindre le reste, le plus ancien. Enfin, il y a aussi quelque chose comme ça. C'est très ancien. On a parlé tout à l'heure des comptines que chante cette petite fille, dont on a l'impression qu'elles sont toujours déjà sues, toujours déjà chantées. On a aussi l'impression que cet homme nous parle de quelque chose qui a toujours déjà eu lieu, quoi.
Oui, sans doute, oui. Oui.
Vous voyez c'est ce mal. Que je veux dire ? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est juste que c'est à cet endroit-là que sa très grande singularité rejoint le monde, quoi.
C'est-à-dire, ça m'arrive aussi d'écrire des livres, ça m'est arrivé d'écrire des livres dans le passé qui parlaient vraiment directement de notre présent. Et j'essaie d'être quelqu'un qui parle du monde dans lequel nous vivons aussi. Mais essentiellement, et notamment dans ce livre-là, il y a aussi cette volonté de toucher à une sorte de vie essentiel qui effectivement nous ramène vers des choses qui sont à la fois très très universelles et très très archaïques, oui. L'expérience de la perte, dire du désir et du deuil à la fois, oui.
Le book club continue.
France Culture. Le book club. Marie Richeux.
Nous sommes lundi, et à cette heure-ci, tous les lundis, on retrouve la rubrique Lecture d'actualité. C'est vous qui l'animez pendant plusieurs semaines, Diaty Diallo, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous avez pour mission de faire, comme ça, se mettre en écho à la fois un ou plusieurs faits d'actualité et des livres que vous lisez ou relisez. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine dernière, Diaty Diallo ?
C'était chargé hein, la semaine dernière, surtout mardi, où un monde parallèle s'est créé, au moment où Jean-Marie Le Pen emportait outre-tombe ses « rentrez chez vous », et où de l'autre côté de la Méditerranée, d'autres « mais vous allez enfin rentrer chez vous », tout à fait légitime ce coup-ci, continuaient de s'élever depuis le Sénégal et le Tchad, notamment en réaction à de nouvelles sorties paternalistes de Emmanuel Macron.
Donc une semaine très chargée, comme vous dites.
Ah ouais, vraiment. Et j'ai beaucoup repensé à ces « rentrer chez vous », ceux de Jean-Marie Le Pen. Et je me suis dit, purée, cette phrase, elle imbibe nos existences depuis qu'on ne sait même pas parler, même pas marcher. Et en fait, je me suis dit, Jean-Marie Le Pen, en fait, c'est un peu comme un croque-mitaine de nos inconscients collectifs d'enfants d'immigrés, avec en arrière-plan cette menace continue de « si tu t'intègres pas à la France, pardon, tu seras obligé de rentrer dans le pays de tes parents. Autrement dit, si t'es pas sage, le croque-mitaine va venir te manger. »
Et alors, à quel livre tout cela vous a-t-il fait penser ?
J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à conjurer dans cette histoire de décès de croque-mitaine pour qu'ils reviennent pas nous hanter, notamment. Et j'ai pensé au livre « Spiritualité radicale » de Yuna Vicentine aux éditions Divergence. C'est un livre qui s'interroge sur l'absence de considération pour le religieux dans l'espace social ou militant et sur l'importance aussi de réconcilier pratiques spirituelles et visées révolutionnaires. Et dans un chapitre sur la mort, Yuna Vicentine, elle pose cette idée, je la cite: nous allons toutes et tous mourir, mais nous ne mourrons pas toutes et tous égaux et égales face à la mort. Et dans cette inégalité, l'imprévisibilité du hasard ne doit pas occulter les responsabilités politiques. Qui meurt violemment ? Quelle mort compte ? Comment les raconte-t-on ? Que fait-on des corps morts ? Comment prenons-nous soin de nos mortes, de nos morts ? Que nous ont-ils transmis ? Qu'attendent-ils de nous ? Nous avons abandonné notre rapport à la mort et une telle défection nous prive d'un pouvoir politique immense. Et moi, ça m'a rappelé « Nous », un film d'Alice Diop dans lequel elle met en présence des images de personnes en pleurs durant une messe à la mémoire de Louis XVI à la Basilique Saint-Denis et les quelques frêles archives filmées au caméscope qui lui restent de ses propres parents décédés. Qui se souviendra de nos mortes à nous ? Qui pour pleurer leur passage sur Terre ?
Est-ce que si je vous comprends bien, Diaty Diallo, il s'agit de garder près de nous nos morts pour que l'oubli ne les tue pas une deuxième fois ?
Oui, c'est exactement ça. La mémoire et l'oubli, c'est très politique au final, et d'où la nécessité de faire archive. En fait, je me suis rendu compte en lisant le livre de Yuna Vicentine que la plupart des choses qui nous ont été enseignées à l'école l'ont été depuis des figures mortes, mais mortes depuis belle lurette en plus, et dont les idées sont pourtant bien en vie dans les manuels. Et ça m'a fait me dire que c'est bien que cette question de mort est toute relative. Mais alors du coup, comment faire, dans le cas d'un Jean-Marie Le Pen, pour que sa mort soit l'occasion de ne plus euphémiser ni ses postures ni ses exactions, tout en conjurant avec lui ses idées et son monde ?
À vous écouter, j'ai l'impression que c'est une question rhétorique.
Plutôt l'intuition qu'on pourrait occuper cet espace laissé vacant par Jean-Marie Le Pen en remettant les morts, les mortes des marges au centre. Et si nous prenions l'habitude d'associer le nom de nos morts, de nos mortes, à la vie qu'elles ont passée sur Terre, à ce qu'elles nous ont laissé et qu'on doit s'occuper de faire perdurer. Et si nous prenions le temps aussi de désigner ce qui les a tués plutôt que d'employer le mot « mort » comme s'il s'agissait d'une fonction autonome, comme si on mourait de soi-même. Et je crois que tout ça, ça peut déjà commencer par le langage. Dans un article qui s'appelle « Je désire savoir comment George Floyd a vécu », la chercheure indépendante féministe noire, Noémie Michel, dit, je la cite, « Je n'ai que très rarement rencontré le nom George Floyd associé au mot « vie ». La vidéo virale de son lynchage a donné place à une expression tout aussi virale, la mort de George Floyd. Que se passerait-il si tout le monde disait plutôt l'assassinat suprémaciste blanc par l'officier de police Derek Chauvin et ses complices?
Ça orienterait le regard différemment, ça orienterait le regard vers un autre endroit.
Et ça changerait la narration. Et à ce sujet, Yuna Vicentin, elle dit, et je la cite encore, « Je crois que c'est aussi continuer de maintenir nos morts, nos mortes dans nos vies et leur rendre, au moins dans nos récits, l'effervescence de l'existence. Il y a des ancêtres qui sont partis trop tôt, mais il est encore temps pour celles-eux qui restent de donner vie, et encore, à leurs existences, de rappeler qu'elles étaient des habitants, habitantes acharnées des mille détails, amour, rêve, pensée, odeur, geste. On prend soin de nos morts, de nos mortes, et en elles-eux, c'est aussi le futur qu'on répare. »
Un véritable enjeu de travail, un enjeu de travail pour le travail de création, vers où il est possible d'emmener les imaginaires, selon vous?
Complètement. Et la langue orale, écrite, ça peut être un espace de cohabitation entre cette vie et cette mort, ou faire briller des existences pour que d'autres prennent la porte. Répétons alors, autant de fois que nécessaire, la vie d'eux. La vie d'Ali Ibrahim, la vie de Ibrahim Bouram, la vie de Ziad Benna, la vie de Bouna Traoré, la vie de Naël Merzouk, la vie de tous celles et ceux tués par les conséquences de la prolifération des idées de l'extrême droite. Et quant au corps du croque-mitaine, comme tous les enterrés, il va progressivement devenir de l'engrais. Poussons dessus, prenons vie. Une bonne fois pour toutes, enracinons chez nous.
Est-ce que vous voulez bien rappeler le titre du livre que vous avez relu pour nous cette semaine?
Oui, c'est Spiritualité radicale de Yuna Vicentin.
Et c'est paru aux éditions Divergentes. On peut vous réécouter sur Lecture d'Actu, franceculture.fr. Merci beaucoup, Diatti Diallo. À la semaine prochaine. Philippe Forest, le Book Club se termine toujours par une évocation musicale. C'est un jeu, nous cherchons de la musique dans les livres. Alors parfois nous proposons à nos auditeurs et auditrices de le faire. Et parfois nous jouons nous-mêmes à chercher de la musique dans les livres. Il y en a dans le vôtre. On va donc terminer avec un extrait de « Et personne ne sait ». Un moment vient où le vent se lève et où il souffle au loin les nuages qui pesaient sur la ville. Leurs lourds rideaux gris et blancs glissent sur la tringle invisible de l'horizon et disparaissant sur le côté, laissant place à l'azur sur lequel toute silhouette se détache, ils découvrent soudainement le formidable spectacle d'une cité héroïquement dressée vers le ciel. Soudainement, comme un coup de cymbale qui donne, triomphal, le signal aux musiciens et auxquels succède le crescendo presque cacophonique des cordes et des cuivres éclatant en désordre, montant en vagues qui éclaboussent l'oreille depuis le fin fond de la fosse d'orchestre. Comme chez Maurice Ravel. Je veux dire le Ravel du concerto pour la main gauche ou celui du concerto en sol majeur, du troisième mouvement dont l'énergie claironnante soutenue par le frénétique clapotis du clavier contraste avec la lenteur extraordinairement poignante du deuxième dans lequel les instruments murmurent mélodieusement. Des compositions qui, à quelques années près, sont plus ou moins contemporaines du roman dont je parle. Donnez quelle place, on a parlé de la place au tout début de notre entretien, Philippe Forest, à cette comptine enfantine, mais à la musique, vous lui donnez quel rôle ou quelle place dans la narration, dans ce texte-là?
À ce moment-là, j'évoque, je crois, le Gershwin et la musique Rhapsody en bleu, je crois, et par association d'idées, donc j'évoque également Ravel. Il y a ce moment dans Manhattan de Woody Allen dont je parle, où effectivement on entend Gershwin sur des plans magnifiques qui montre en noir et blanc Central Park, Et on a vraiment l'impression à ce moment-là, dans le film de Woody Allen, me semble-t-il, pour autant que je m'en souvienne, et dans mon roman, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu produire comme impression d'un renouveau printanier.
Le fameux, celui voilà. auquel on peut croire encore.
Voilà. La musique est là pour nous y faire croire d'une certaine manière.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Forest. Et Personne ne sait, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Élise Leu à la réalisation Vivien Demeillard. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Mathilde Wagman, Auriane Mignot, Cyril Marchand, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Alexandra Lajbegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.